qu'il faudrait mastiquer au moins 46 fois l'aliment qu'on a dans la bouche pour en apprécier toute sa saveur.
En fait, c'est un peu comme l'amour, si ça dure plus longtemps, c'est pas mal non plus.
Sur les grosses dents de derrière, brosse déjà d'un côté. En avant et en arrière, brosse là où tu croques ton goûter. Hop.
Voilà une sympathique chanson éducative, « Frotte tes connottes », paroles et musique de Gaëtan, que vous pouvez retrouver sur le site internet gaetan.ch. Gaëtan s'écrit G-A-E-T-A-N.ch, avec l'aimable autorisation de L'Oreille Production, que je remercie infiniment. Mes amis de la fête de la gastronomie, bonjour! Pour cet épisode numéro 6, je vous propose aujourd'hui une rencontre, une fois de plus, étonnante, avec Madame
Dany Goura, ancienne chirurgien-dentiste.
Willy Goura, son mari, dentiste aussi.
Alors peut-être vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'il nous emmène avec des dentistes? Mesdames, messieurs, chers amis de la fête de la gastronomie, vous comprenez très rapidement que pour déguster, pour manger, pour se faire plaisir, il faut avoir une bonne dentition et il faut avoir un bon appareil dentaire, comment dit-on,
gustatif.
La denture, le système manducateur, c'est un mot très savant qui ne veut pas dire grand-chose pour le public.
Alors, Dany, Willy, pouvez-vous nous parler de cette région-là dans l'objectif de pouvoir apprécier ce que nous mangeons et quelles sont les recettes, tu vois, vous me tendez la perche là, quelles sont les recettes pour avoir une bonne dentition?
Alors, comme vous êtes pour la gastronomie, je présume que les premiers émois de la gastronomie, c'est l'œil et l'odorat. Mais c'est vrai qu'on arrive après avec le système gustatif qui permet par les lèvres, par le goût, par les papilles, d'apprécier énormément les subtilités de ce qu'on nous propose. Alors moi, je peux dire aussi que c'est quand on ingère un produit, on passe par la langue, par exemple, qui est un muscle de 17 muscles lui-même, qui est extrêmement agile, extrêmement garni de terminaisons nerveuses, qui permet d'apprécier le sel, le salé, le sucré, l'amer et l'acide, qui sont les quatre fonctions de la bouche.
Tout ça est très intéressant, Willy.
Si ça le fait rire, c'est bien.
Oui, oui. Ce que vous me dites m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous voulez nous expliquer la fonction des dents dans la manière de se nourrir, dans la manière d'apprécier les choses?
La mastication, par définition, c'est l'entrechoc des dents du maxillaire supérieur et de la mandibule. À partir du moment où on mastique, on exprime certaines choses, on les exprime au sens chimique, c'est-à-dire qu'on les fait sortir. Dans une viande qui s'écrase, les protéines se libèrent. Quand on mange un fruit, les chaînes aromatiques, les cellules qui contiennent des liquides explosent. Donc à ce moment-là, des gens vous disent souvent « Oh là là, je l'ai senti, ça a explosé dans ma bouche ». S'ils ne les mastiquent pas, ça n'explose pas.
Voilà, alors voilà, ça c'est très bien, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que vous pouvez développer justement ce phénomène d'explosion et de diffusion ensuite?
La diffusion, elle se fait effectivement par la mastication, elle se fait par le contrôle musculaire de l'environnement, elle se fait par le fait de la déglutition aussi, parce que le propre d'un chirurgien dentiste, c'est de travailler du bord libre rose des lèvres jusqu'au pharynx. Donc au moment de la déglutition, il est certain que le plaisir est très agréable. J'ai envie de parler que ma consoeur parle du nombre de fois qu'il faut mastiquer et à quel point le goût reste en dépit du temps qui passe.
Il paraît qu'il faudrait mastiquer au moins 46 fois l'aliment qu'on a dans la bouche pour en apprécier toute sa saveur. Alors il y a des aliments qui s'y prêtent quand ils sont assez épais, mais il y a des aliments quand ils sont un peu mous ou un peu liquides, ça pose des fois des problèmes. C'est un peu compliqué. Mmh. Mais enfin, il faut quand même se souvenir qu'il faut beaucoup mâcher et tranquillement, ce qui fait d'ailleurs qu'on mange moins vite, ce qui est mieux, parce qu'on a tendance à manger trop vite.
46 fois. Est-ce que vous avez testé la chose
vous-même ? Oui. Fréquemment. Je me suis rendu compte relativement récemment que quelque chose d'agréable qu'on peut mastiquer longtemps a encore énormément de goût au bout de la 40e fois et que ça valait la peine d'attendre. Mais on vit dans un, monsieur, cher ami, dans le siècle de la vitesse. Donc on est toujours pressé. On a tort en gastronomie, il faut vraiment prendre son temps.
Absolument. Non, mais je suis très content que vous me disiez ça parce que la vitesse pour le moment et sur ce sujet ne m'intéresse pas. Je sais que par ailleurs vous êtes un grand adepte de la vitesse.
Vous savez pourquoi ? La vitesse permet la lenteur. Plus vite on a mastiqué, moins vite on digère. Mais plus vite on est sur la Côte d'Azur, plus longtemps on bronze.
Oui, bien sûr, bien sûr. Certes. Vous voyez, mes amis de la fête de la gastronomie, que les choses se passent dans la franche rigolade avec mes amis. Vous avez tester ce phénomène de mastication. Alors, vous êtes allé jusqu'à 46
Non, mais ami qui aimait de bien manger, je pense qu'il faut que vous le testiez dès ce soir, parce que vous verrez que c'est un plaisir de fin gourmet.
Voilà, la question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez dit, le goût reste au bout de la 46e, on va parler comme ça, la 46e mastication, le goût est toujours là. Est-ce que c'est le même goût, est-ce que c'est la même saveur ou est-ce que ça se modifie un petit peu ?
Ça dépend, à mon avis, de ce que l'on est en train de déguster, mais j'imagine qu'il est quand même relativement constant. Ce que je voulais dire, c'est qu'il dure. On a l'impression qu'en avalant, au bout de quelques secondes, on a eu le plaisir que l'on souhaitait obtenir. Mais pas du tout, si on continue. Enfin, c'est un peu comme l'amour, si ça dure plus longtemps, c'est pas mal non plus.
Très bonne comparaison. Très bonne. Bon, mesdames, messieurs, vous avez entendu le message.
Mais vous couperez si vous voulez.
Non, mais je ne vais certainement pas couper. Non, ça, c'est vraiment trop intéressant, la comparaison.
Je vois que monsieur est adepte.
Absolument. Au moins, on comprend tout de suite. Donc, mastiquer.
C'est un plaisir.
Est un grand plaisir. Ah, bon, oui, alors, il faut que je reprenne mon souffle.
Hein. Je pense que les gens préfèrent écouter ça comme ça.
Ah, bah, évidemment, ça peut pas être désagréable.
Oui, bien sûr.
Si je commence à parler de la position NH2 en position para du cycle de benzène.
Ça... Oui, non, mais ça, personne ne va comprendre. Hein. Personne ne va comprendre. Dany, vous qui êtes une fine cuisinière, j'en atteste ici. Lorsque vous cuisinez, est-ce que vous avez en tête, justement, par rapport à ce que vous cuisinez, le rôle de la dentition, de la bouche, de la langue et du phénomène de manger et d'apprécier ?
Au départ, c'est plutôt intellectuel. Je penserais à mélanger certains aliments avec d'autres parce que je sais que l'un va agir sur l'autre, etc. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que de goûter ce que je fais sur le moment est déjà un test indispensable.
Oui, mais
dans la cuisine.
Merci de le dire. C'est d'ailleurs ce que tous les chefs disent à leurs commis ou à leurs apprentis. Goûter. La première des choses, c'est goûter.
Goûter. Ouais. Voilà. Et après, bon, bah, évidemment que il faut penser aussi à ce qu'on mange.
C'est intéressant ça.
Parce que par exemple,
qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que par exemple, si je me mets un morceau de chocolat dans la bouche que j'aime beaucoup et que je fais en même temps la vaisselle, j'ai avalé le morceau de chocolat, j'ai eu aucun plaisir. Donc, il faut quand on veut apprécier un aliment. Pensez à ce qui se passe et ce qu'on a dans la bouche. C'est indispensable.
Ça, c'est très intéressant. Ça pourrait être même enseigné dans les écoles hôtelières.
Peut-être.
Parce que bon, le chef dit ben, « goûter », mais il n'y a pas forcément ce côté intellectuel dont vous parlez, de dire « je vais faire quelque chose, donc je réfléchis un petit peu et j'aurai plus de plaisir à ».
Voilà.
Donc ça, c'est très bien, très bien. Voilà une bonne recommandation. On a besoin de ces recommandations-là. On a besoin de s'arrêter sur les choses comme vous le faites là.
Dany vient de parler effectivement de la concentration, de se concentrer sur le fait qu'on mastique. Mais on a un rôle diagnostique dans la bouche. On a le diagnostic du trop chaud, du trop froid, du trop acide, du trop salé. Et ça, c'est un problème quand même très important. Et finalement, on vient de parler de goûter, et goûter, la suite de goûter, c'est effectivement la déclinaison de goûter, c'est d'apprécier le bon moment, le bon degré, la bonne dose. Donc c'est vraiment le thermomètre, le baromètre, tout ce que vous voulez en mettre sous un vue gustatif pour en apprécier tout ce qu'on est en train de faire. Donc non seulement les concentrations, mais il y a un aspect diagnostique. Alors, ce n'est pas le médecin qui parle là, c'est le diagnostic au sens le plus simple du mot. Je me suis rendu compte que là, ça n'était pas assez cuit. Mais si ce n'est pas assez cuit, c'est quand même les dents qui sont en train de dire soit c'est trop dur, soit c'est trop mou parce qu'il a été trop cuit, etc. Donc là, c'est vraiment le diagnostic en plus de la concentration.
Entre le cerveau et toute cette... Vous pouvez...
Moi, c'est pas lié, là.
C'est pas lié. C'est pas
non,
lié.
Je plaisante.
Oui, alors, avec le cerveau...
Le cerveau, il intellectualise tout, hein, ouais. Par définition.
Mmh. Et il faut...
Sans système cérébro-spinal, la pensée n'existe pas, puisque l'induction vient d'un contact, mais le contact monte immédiatement par les chaînes ascendantes nerveuses qui expriment quelque chose par le savoir, par la conscience, par l'état d'un être humain. Même les animaux se rendent compte si c'est un peu trop chaud, par exemple.
J'imagine.
Mais
j'imagine.
C'est vrai que nous, on y ajoute une dimension poétique, voire artistique. Donc ça va très très loin. Le diagnostic, il est effectivement pour ne pas se brûler, pour apprécier la tendreté du produit, mais c'est également le plaisir qui apparaît. Donc la notion de plaisir engendrée par le diagnostic est quand même très importante, parce qu'à ce moment-là, on dit « j'en reprendrai bien encore », ou d'autres disent « j'en veux plus du tout ». Voilà, donc c'est amusant, mais c'est vrai que le cerveau intervient constamment. D'ailleurs, je ne connais pas quoi que ce soit chez l'être humain dont le cerveau ne soit pas conscient.
Absolument. Venons un petit peu dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quel moment on a fait quelque chose autour des dents, on s'est aperçu qu'il manquait une dent ou qu'il y avait des trous? D'abord, est-ce qu'il y avait des trous quand l'homme est arrivé? Est-ce qu'il y avait
On peut imaginer que les Néandertaliens et autres Australopithèques avaient d'excellentes dents et plutôt carnassières qu'autre chose, bien sûr.
Oui, donc une bonne dentition. Bien.
Alors, non seulement une bonne dentition, mais tu veux peut-être parler, par exemple, d'une race jeune, d'une ethnie jeune chez les Noirs qui n'ont pas d'accident de dents de sagesse parce qu'ils sont issus d'une ethnie plus jeune qui a beaucoup mastiqué et qui a la place de faire sortir ses dents de sagesse, alors que nous, notre mandibule s'atrésit.
Elle s'atrésit parce qu'on mange de plus en plus mousse.
Atrésit.
C'est-à-dire, elle diminue de forme et de force. Mmh. Et plus on mange mou, moins on a de force. Mmh. Et plus la bouche se rétrécit. C'est un peu pour ça que maintenant, souvent, les gens n'ont même plus de place pour faire pousser leurs dents de sagesse.
De siècle en siècle.
Ah oui.
Et qu'on est obligé d'enlever des fois une prémolaire pour que la dent de sagesse, qui elle est plus grosse et plus solide, pour qu'elle ait la place, pour qu'elle trouve sa place dans la mâchoire.
Oh, ouais, donc ça se fait au cours des milliers d'années.
Ouais.
Et alors cette ethnie dont Willy parlait, vous pouvez en dire
L'ethnie noire.
Oui, les Noirs, effectivement, ont une bouche, enfin, des mâchoires beaucoup plus larges et il n'y a pas de problème pour l'emplacement de leurs dents.
Oui, donc ça se vérifie aujourd'hui.
Encore maintenant, oui.
Ah oui, oui. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement lent.
Oui, ah ben oui, oui.
Est-ce qu'il y avait des croyances autour des dents? Est-ce que les dents font partie d'une mythologie
J'ai celle de Voltaire. Il disait « Je perds mes dents, je meurs en détail ». Oui, mais je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, c'est aussi une idée de mort. Et puis, il y a même une idée de renaissance, puisque qu'un gamin qui perd une dent, on lui dit de mettre quelque chose sous un oreiller, il y aura une petite souris. Mais c'est une forme de résurrection. Donc on veut prolonger quelque chose. Donc c'est un peu mythologique. Et il y a des gens qui aiment bien des colliers avec plein de dents.
C'est vrai.
Dessus.
Voilà. Oui.
C'est un instrument intéressant, puis c'est quand même l'endroit le plus dur de notre squelette.
Oui, plus dur que
plus
l'os.
Plus dur que l'os, oui. L'émail est plus dur que l'os.
Ouais. Mais je reste sur l'histoire. Est-ce que par rapport à Voltaire, est-ce que dans les religions, dans je sais pas, le fétichisme, est-ce que il y a des choses qui sont rattachées aux dents?
Je ne suis pas compétent pour vous répondre.
D'accord.
Je vois des photos, effectivement. Effectivement, il y a des peuplades dites primitives, mais qui sont peut-être plus heureuses que nous, qui ont effectivement des colliers avec des dents, mais je ne sais pas ce que... Est-ce que c'est pour perpétuer un souvenir d'un ancien? Est-ce que c'est pour conjurer un sort? Je n'en sais rien. Je ne suis pas assez compétent.
Oui. Bon, vous avez beaucoup voyagé. J'ai vu, vous avez déjà vu ça. Aux îles Marquises, les enfin, pas tous, mais ils ont beaucoup d'hommes ont des colliers avec des dents. Alors, c'est des dents de cochon. Bon. Mais, donc, il doit y avoir une signification ou des significations. Comment fait-on pour garder de belles dents? Avoir de belles dents et garder de belles dents?
Déjà, au départ, il y a un problème génétique.
Développez, s'il vous plaît.
Eh bien, une maman qui a de bonnes dents et qui transmet cette bonne chose à ses enfants, ils auront des bonnes dents. Et inversement. Hein, c'est, le problème génétique existe. Et ça, contre ça, on ne peut rien faire au départ.
Ah ouais.
Bon. Après, il y a une question...
Mais ça se vérifie tout le temps, non?
Ah oui.
Moi, je peux... Personnellement, j'ai eu l'exemple dans ma famille. Mon père avait de mauvaises dents, ma mère avait de bonnes dents. Mon frère a hérité des dents de mon père. À 20 ans, il avait déjà des tas de couronnes en bouche. Alors que moi, j'ai 81 ans et j'ai toutes mes dents impeccables. Voilà, une question de génétique. Et on a été élevés de la même façon. Donc, en se brossant les dents 3 fois par jour, après chaque repas, etc.
Je me faufile, mais je vais laisser de nouveau la parole. Ma femme, pour le cours de sa pratique, s'est entendue dire à ses patientes ou ses patients, j'aimerais avoir un appareil comme le vôtre.
Ouais. Merci. C'est vrai.
Donc ça, ce sera un effet de mode.
Oui.
Ouais, bon. Je vous laisse continuer sur...
Alors, le côté génétique intervient, c'est sûr. Après, il y a une question d'hygiène pour les dents. C'est évident que la règle, c'est se brosser les dents après chaque repas. Voilà. Et même si, en dehors des repas, on mange quelque chose de sucré, il faudrait se relaver les dents. Il y a aussi certains produits tels que le Coca-Cola. Hein, il y a maintenant la carie du Coca-Cola. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais je vais quand même vous dire que le pH du Coca-Cola est de 2,8 et que si on met un ongle dans du Coca-Cola, au bout de 4 jours, il a disparu.
Il faut rappeler que l'acide, c'est de 0 à 7.
C'est l'acide citrique, oui.
C'est de 0 à 7 et basique, c'est de 7 à 14. Donc, 2, c'est très, très acide, n'est-ce pas?
Voilà. C'est pour ça. Donc, le Coca-Cola est un produit qu'il faut vraiment utiliser au minimum, surtout chez les enfants.
Oui.
Voilà. Alors après, je peux citer des exemples de l'emploi du Coca-Cola pour le côté nettoyage,
pratique.
Les pratiques, etc. Mais on n'en est pas là. C'est surtout pour les dents qu'il faut.
Oui, c'est surtout pour les dents.
Mais il existe maintenant la carie du Coca-Cola.
Et c'est identifié.
C'est identifié.
Et alors, est-ce que vous, en tant que dentiste, vous les traitez de manière différente ou si vous... Bon, il y a une carie, vous traitez la carie.
On traite la carie, mais
pédagogique.
On met surtout les enfants, parce que c'est surtout les enfants, en garde contre cette boisson. Et les bonbons aussi, bien sûr, tout ce qui est sucré.
Oui, tout ce qui est sucré en général.
Voilà. Alors moi, je leur dis, mangez des bonbons si vous voulez, mais allez-vous brosser les dents chaque fois après. Alors, c'est dissuasif.
Si on boit un verre d'eau derrière, c'est pas suffisant.
Non.
Non, parce que le sucre, quand vous l'écrasez, il peut rester dans ce qu'on appelle les sillons.
Oui.
Si vous regardez une dent de près, ce n'est pas une surface plate. Ce n'est même pas comme un dé à jouer où il y aurait un marqué 5. Il n'y a pas que 5 points. Il y a des milliers de petites aspérités. Et si, on va dire, une sorte de caramel s'écrase dedans, il reste dedans. Il faut vraiment la brosse à dents.
Quand vous avez commencé votre carrière... Vous avez vu vos patients avec une dentition. Quand vous avez terminé votre carrière, est-ce que vous avez vu une évolution dans les
caries.
dans les problèmes que l'on peut trouver.
Ah oui, ça a été en s'améliorant.
Ah oui.
Ah ben oui. Déjà parce qu'on a mis les gens en garde contre ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le sucre, certaines boissons, etc.
Oui.
L'hygiène a été enseignée quand même beaucoup plus qu'avant aussi.
La fréquentation des soins.
La fréquentation des soins. Quand il manquait des dents, on les remplaçait, donc ça a aidé à la digestion, ça a aidé à la mastication, etc.
Ouais.
Et puis, le fait que les gens se fassent soigner plus volontiers, c'est dû aussi au fait que les anesthésiques ont fait des progrès, donc on souffrait moins chez le dentiste, donc on y venait plus volontiers. Et ça, pour la mastication et tout ça, ça a beaucoup amélioré tout.
Bon, j'avais pas tout à fait conscience de ça. Les dentifrices, est-ce que vous pouvez nous parler des dentifrices? Y a-t-il des recommandations? Il y a des bons produits, il y a des produits moins bons.
Voilà, exactement. Mais
on va parler de marque, évidemment.
Mais... Voilà, sans parler de marque, il y a des. Moi, je disais quand même à mes patients, surtout, vous ne prenez pas ce dentifrice-là, parce que je voyais les dégâts que ça donnait.
Ouais.
Alors, on peut dire déjà qu'il faut éviter les dentifrices qui ont des colorants, parce que ça, c'est pas très bon.
Mmh.
Mais sinon, bon, maintenant, je pense que ça aussi, ça a fait beaucoup de progrès et que maintenant, il n'y a plus de danger dans les dentifrices. Je ne vois plus le dentifrice que je décommandais à tout le monde, mais je ne le vois plus.
Et est-ce que les fabricants de dentifrices, je ne sais pas comment on peut les appeler, est-ce que vous aviez des relations, des discussions avec eux? Parce que pour faire un dentifrice, quand même bien d'interviewer les professionnels, quand même.
Non seulement on a eu des relations, mais je fais un petit préalable avant. Un dentifrice, c'est de la ponce et de la vaseline. Point, c'est fini. Vous fabriquez votre dentifrice demain matin. Alors évidemment, pour faire joli, vous ajoutez un colorant et un goût avec un produit quelconque, et vous avez un vrai dentifrice.
Ouais.
On a eu la chance d'être dans les 20 dentistes en France qui ont été sélectionnés par Saint-Élabo. Je le dis Saint-Élabo parce que le dentifrice, finalement, n'est pas sorti. Donc, ce n'est pas de la publicité, au contraire. Non, pas au contraire, parce qu'ils ont été très sérieux. Oui, alors, on avait 9 patients qui avaient des dents impeccables et ils étaient censés avoir un dentifrice testé révolutionnaire mélangeant du potassium et un autre produit qu'on connaissait pas. Donc en double aveugle, on a fait une expérience sur une dizaine de semaines. Ça a été très très intéressant, et si j'ai cité Saint-Élabo, c'est que justement ils ont eu l'honnêteté de dire que ça n'avait pas donné de résultat. Mais en dehors de cela, ça nous a permis aussi de voir que des bouches parfaitement entretenues n'avaient pas de soucis, pas d'ennuis, pas de suite, ni en bien ni en mal, voilà. Mais un dentifrice, c'est pas grand-chose. C'est de la ponce et de la vaseline.
Oui, de temps en temps, je mets du bicarbonate.
Pour éclaircir, c'est pour blanchir.
C'est pour blanchir, c'est pour faire joli.
Oui, c'est ça, c'est esthétique.
Alors, sur la qualité ou la quantité du dentifrice, moi, je disais toujours, surtout aux jeunes, je dis, c'est pas la peine de faire comme à la télévision, c'est-à-dire d'en mettre tout le long de la brosse à dents. Un petit poids extra fin suffit. Ce qui compte, c'est le temps qu'on y passe et de bien passer partout avec la brosse à dents.
3 minutes deux fois.
3 minutes en haut, 3 minutes en bas, enfin ensemble, quoi. 6 minutes en tout.
D'accord. Ah oui, oui. C'est long quand même. Hein.
Oui, mais ça vaut la peine.
Je trouve que c'est très très long. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait dans la
oui,
vie.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si on part sur cet
objectif, on fait déjà quand même quelque chose de bien.
Oui, pour ce qui me concerne, j'essaie, en prenant de l'âge, de faire attention. Je me dis, ah ben là, je me serais arrêté, mais non, je continue.
Très bien. C'est un début.
Bon. Mais c'est quand même assez récent. Bon, et alors, vous allez me dire si c'est vrai, est-ce qu'il y a une... Alors, forcément, mais j'aimerais votre point de vue, une relation entre la santé des dents et la santé du corps.
Bien sûr. Si on ne mastique pas bien, on digère mal, on assimile mal et on est en mauvaise santé.
Alors, oui, vous en avez déjà soulevé le problème tout à l'heure. J'avais dans la tête une relation entre la santé des dents et le cœur. Parce que très souvent, j'ai entendu dire des gens, ben, il a des problèmes cardiaques, donc on lui enlève toutes les dents.
Ah là, c'est pas
ça n'a pas de rapport.
Ça n'a pas de rapport. C'est pas mécanique.
Oui, ça n'est pas mécanique.
Alors,
là, c'est microbien. C'est-à-dire que si une dent est vraiment mal en point, j'emploie un terme très simple, mal en point est susceptible de conserver des germes dans sa périphérie à l'intérieur ou même autour, ça peut provoquer une endocardite infectieuse. Effectivement, le microbe se déplace, va sur le cœur, et le gars peut même en mourir.
Oui, oui, il faut que je leur pose cette question.
C'est microbien.
C'est microbien. Oui, très bien, très bien.
C'est impossible avec des dents saines.
J'imagine.
Voilà. Alors le problème, c'est que des grands opérés pour des syndromes graves, ils sont forcés d'être prudents pour éviter qu'il y ait une surinfection par une dent mal soignée, conservée en bouche. Alors là, j'ajoute une notion, pas seulement personnelle, mais il ne faut pas non plus que les chirurgiens se croient obligés de tout enlever. J'ai eu la chance de travailler avec des grands champions du cœur, des reins, etc., à deux hôpitaux à Lyon, où on me demandait de faire des bilans, et après je devais signaler toutes les dents à extraire éventuellement. Je pense qu'il faut être plus prudent que le souhait de certains chirurgiens qui voudraient tellement se mettre à l'abri qu'on dévaste la bouche, et le patient se retrouve avec deux appareils qu'il n'aurait pas mérité, ou des implants, à la rigueur. Mais là, il faut de l'argent.
Alors, vous me tendez, quel est le nom de votre outil principal qui va en bouche, le miroir peut-être, non ?
Miroir, sonde, presselle, oui.
Voilà, alors vous me tendez le miroir. Justement, avoir de belles dents, combien ça coûte ?
Quand quelqu'un est en bonne santé ou qu'il a une hérédité épouvantable.
Non, ça ne coûte rien. Hein.
Oui, oui, non, mais évidemment, ça dépend des soins qu'il y a à faire. Tout à l'heure, vous avez parlé, par rapport à la question que je vous posais sur la relation entre les dents et le cœur, dites les gens qui ont une très bonne dentition, une très bonne bouche, qui gardent ça, n'ont absolument pas de problème. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment fait-on pour garder une bonne... Alors, vous avez commencé...
Ma femme l'a dit, oui, oui, l'hygiène, la prophylaxie et les bons conseils. Ensuite, c'est si... Si vraiment il n'y a pas de catastrophe, si la personne, catastrophe accidentelle, traumatisme, théoriquement, on ne devrait rien coûter à la sécurité sociale. En France, on est particulièrement bien protégé par rapport à énormément de pays du monde. On est vraiment très protégé. Si on va voir un praticien de la chirurgie dentaire tous les ans, au moins une fois, théoriquement, il n'aura rien et ça lui coûtera 23 euros, il sera remboursé. Je ne vois pas où est la dépense dans ce cas-là.
Contrôle annuel.
Ce sont les malchanceux et les négligents qui risquent d'avoir de l'argent déplacé un jour. Il ne faut jamais y aller trop tard, parce que plus c'est long à attendre d'être soigné, plus ça sera long à travailler, douloureux et cher.
Oui, donc ce que l'on peut recommander, c'est contrôle annuel. Dès qu'il y a un petit souci, on va voir son dentiste.
Et surtout pour conserver le plaisir de manger, parce que je perds pas le but de l'émission.
Ne sortons pas de ce sujet. Absolument, absolument.
Non, c'est pas dès qu'il y a un petit problème, c'est même qu'il y a un problème.
Oui, oui, c'est avant même qu'il y a un problème. Non, mais si on se fixe la règle, eh bien, je vais, quoi qu'il arrive, je vais voir mon dentiste une fois par an.
Voilà.
Et c'est très bien. Alors, est-ce que pour vous, il y a des aliments qui sont bénéfiques pour les dents ? On parle du chocolat, le riz, les pâtes complètes.
Non, mais en théorie, si la gastronomie ou même ce que l'on mange normalement sans pour autant faire de la gastronomie, si c'est correctement acheté, travaillé et mangé régulièrement, correctement, théoriquement, il y a zéro souci, théoriquement. Ouais. Je ne vois pas en quoi...
Une alimentation.
Après, on rentrait dans la physiologie. Si c'est une histoire de vitamine C, de choses comme ça, c'est autre chose. On parle digestion à ce moment-là. Sachant quand même que dans la cavité buccale, on est la première antichambre de la digestion. C'est-à-dire qu'on commence à déjà couper les aliments, bien sûr, mais on les imprègne d'une diastase, donc d'un enzyme qui s'appelle le lysogyme, avec un Z. Eh bien, le lysogyme, c'est de la première diastase qu'il y a dans la bouche. C'est bien avant l'œsophage, l'estomac et les grands intestins. Voilà.
Oui, donc d'où l'importance d'aller une fois par an chez son dentiste pour que tout l'ensemble du processus se passe.
Et d'avoir une bonne alimentation, mais ça c'est pour le corps humain de toute façon.
Pardon. Oui, absolument, c'est d'être bien. Mais ça veut dire qu'il faut quand même, comme pour toute chose, et on va rejoindre un petit peu les pratiques alimentaires de notre époque, où on ne réfléchit pas trop à ce qu'on mange et on a une tendance à aller vers des plats préparés parce qu'on n'a pas le temps.
Trop gras, trop sucré, trop salé.
Absolument. Et donc là, c'est un petit peu embêtant. J'imagine que vous avez fait beaucoup d'éducation auprès des écoles.
Tu vas nous parler un petit peu de ce qu'on faisait pendant 20 ans, de manière bénévole, tous les jeudis.
On a fait de la prévention, c'est-à-dire qu'on allait dans les écoles, en accord avec le directeur, etc. Et on parlait, on montrait aux enfants ce que c'était qu'une dent, on leur dessinait au tableau, etc. Et on leur expliquait effectivement pourquoi il fallait se laver les dents, pourquoi il ne fallait pas manger telle chose, pourquoi il ne fallait pas boire telle chose, etc. Et les enfants nous posaient des fois des questions sur l'alimentation, sur la fréquence des brossages, etc. Mmh. C'était une sorte d'éducation, effectivement.
On passait un film, on leur donnait du dentifrice, un gobelet,
voilà.
Tout ça.
Oui.
C'était très bien.
Oui, il y avait un petit côté ludique. Ils repartaient avec quelque chose.
Voilà. Et puis je pense que ça a participé justement à la chute vertigineuse du nombre de caries par enfant. Quand on a commencé, on voyait des bouches pratiquement à 95% avec au moins une carie, voire 5, 10, 15. Et à la fin de notre exercice, il n'y en avait pratiquement plus. C'est-à-dire qu'il ne restait plus que l'orthodontie, c'est-à-dire la séance de réaligner des dents qu'on poussait plus ou moins de travers. Mais il y a eu un progrès gigantesque. Prophylaxie, éducation, hygiène. Alimentation, gastronomie bien considérée, etc. Non, très bonne chose.
Vous soulevez la question de l'orthodontie. Pourquoi est-ce qu'on... est-ce que c'est très fréquent que les dents se mettent un petit peu...
Ben justement, à cause de cette mâchoire qui a tendance à se diminuer, et les dents n'ayant plus de place, elles se mettent un peu comme elles peuvent. Et à ce moment-là, l'engrainement des deux mâchoires se fait mal et la mastication peut être moins bonne.
Ah oui. Et alors, je voyais, on en avait parlé il y a quelque temps, vous me parliez des piercings.
Ah, c'est autre chose.
Alors, pour nos jeunes qui, j'espère, vont nous écouter, ce serait bien que vous parliez de cette notion de piercing tout autour de la...
Alors, j'ai eu l'exemple, moi, dans ma patientèle, de voir une petite jeune fille arriver...
Votre patientèle ?
Oui. Ah, pas une clientèle, c'est une patientèle.
Oui, tout à l'heure, j'ai parlé de patient, parce que je ne voulais pas parler de client. Mais patientèle.
Patientèle. D'avoir une petite jeune fille qui avait ses deux centrales, ses quatre centrales du bas, centrale et latérale, ses quatre dents de devant, qui se déchaussaient complètement. Et la bonne raison, c'est qu'elle avait un piercing dans la lèvre inférieure. Donc, comme le piercing derrière, il y a une petite pointe, ben cette pointe lui déchaussait complètement les dents et elle commençait à avoir les dents qui bougeaient alors qu'elle était jeune fille. Alors, je lui ai fait quitter, évidemment, très vite ce piercing. Tout est rentré dans l'ordre en surveillant, etc. Mais alors, quand je vois des jeunes filles qui ont des piercings comme ça dans la bouche, en général, je me permets de leur dire qu'il ne faut pas le faire.
Le piercing dans la langue, c'est...
Alors là, j'ai pas d'expérience, je peux pas en parler, j'en ai pas vu, moi, dans ma patientèle.
Non, mais les gens peuvent percer tout ce qu'ils veulent.
Si ça n'est pas,
avec le mot savant, de tératogène, c'est-à-dire qui engendre des catastrophes et des mortalités, pas de problème. Mais là, effectivement, les polymicro-traumatismes, donc nombreux petits chocs réguliers, ont fait que ce qu'on appelle la table osseuse, c'est-à-dire que l'os qui était sous la gencive, petit à petit la gencive a été ulcérée, puis l'os attaqué, et les dents n'ayant plus de sable pour s'accrocher, ou du béton, ben elles commencent à bouger.
Elles peuvent partir.
Les limites sont extraites, oui, c'est une catastrophe. Oui.
Les dents saines, c'était pas les dents qui étaient en cause, c'était la mâchoire, le support.
Ce que vous expliquez, les micro-chocs à l'ambiance.
C'est compliqué l'alimentation. Je vais frôler un peu de sortir du sujet, mais j'ai écouté une émission scientifique très sérieuse et j'aime bien avoir des fois une information qui ne vient pas tout droit d'un lobby, puisque c'est le mot à la mode, mais qui sort latéralement sans que la personne se rende compte qu'elle me donne une information majeure. C'était simplement l'étude des tissus humains, la peau. Bon. Et le gars, il parlait des peaux qu'il voyait. Et au milieu d'une phrase, il a dit, ce qui nous ennuie beaucoup, c'est les véganes, parce qu'étant donné qu'ils ne mangent pas de viande, ils ne se rendent pas compte qu'ils perdent tel élément de la peau, tel élément dont on a besoin, d'éléments carnés, des fibres carnées, effectivement, et leur peau vieillit beaucoup plus vite, s'effrite, etc. Alors c'est bien, parce que si c'est une émission bidon à la télé qui vient prêcher pour un oui ou pour un non, ça ne m'intéresse pas. Mais là, il parlait d'autre chose et il ne s'est pas rendu compte qu'il devrait une information totalement scientifique parce qu'il est dans un labo. Donc, il faut se méfier de ce que l'on mange aussi et des modes.
Pour ce qui est du vegan, j'ai entendu aussi, sans doute à la même émission, une maman qui alimentait son bébé. La maman était vegan. Et ben, le bébé avait une peau épouvantable et manquait de tas de choses. Pourtant, il était nourri avec un lait maternel. En général, on dit que c'est ce qu'il y a de mieux pour un bébé.
Oui, oui.
Ben, en l'occurrence, il lui manquait déjà des tas d'éléments parce que l'alimentation de la maman n'était pas suffisante.
Ouais, donc, les végans n'ont pas trouvé quelque chose d'équivalent pour...
C'est-à-dire qu'il faudrait donner des compléments alimentaires.
Compléments alimentaires.
Voilà.
Oui, mais là, c'est des fibres carnées. Hein.
Oui,
il y a pas
le bébé pour lui donner
bébé
pour lui donner des compléments alimentaires, c'est pas évident.
Oui, très intéressant comme information. J'avoue que c'est la première fois que j'entends cette chose-là. Autre question, mes chers amis. Les aliments bénéfiques pour les dents, qu'avez-vous à me dire?
Toutes les vitamines.
Les produits laitiers. Tout ce qui a du calcium, tout ce qui est, c'est plutôt les aliments qui sont mauvais qu'il faut mettre en exergue.
D'accord, ok. Alors, sur les aliments mauvais.
Mais
oui,
si on a une alimentation équilibrée, il n'y a pas de problème.
Oui. Alors j'avais effectivement un petit répertoire là. Tout à l'heure, je parlais du chocolat. Alors ça me va bien parce que le chocolat, le chocolat noir en particulier. Me va très bien. Je vois que le cacao renferme des phosphates, éliminant des acides.
La tyramine, antidépresseur.
Ah, oui.
Dans le chocolat, oui.
Oui, très bien. Le riz, le riz pardon. Les pâtes complètes. Le saumon. Alors, j'étais surpris. Le saumon, parce qu'il y a du fluor.
Oui, le saumon, c'est très bien, mais il faut voir comment il a été élevé.
Absolument. Il faut, soit en cage, soit qu'il a du mercure.
Ou avec des antibiotiques, etc.
Antibiotiques, oui, là, il faut faire attention. L'eau minérale, effectivement, il y a un peu de fluor dans l'eau.
C'est important, le fluor.
Alors, s'il vous plaît.
Alors, justement, le fluor, on peut l'absorber de différentes manières, par l'alimentation, par des petits comprimés, par tout ce qu'on voudra dans le dentifrice. Il faut savoir que le fluor, il en faut des quantités limitées par jour. Parce que si on prend trop de fluor, on fait une fluorose, les dents deviennent marron comme des taches de cholestérol sur la peau, c'est une catastrophe. Donc méfiez-vous du fluor, prenez-en pour les enfants, les adultes, je ne pense pas, les adolescents à la rigueur. Il faut en prendre par une seule voie d'abord, mais pas plusieurs abords simultanés. Il ne faut pas avoir le dentifrice, le pain fluoré, etc. Alors là, si vous arrivez à un excès, ça sera l'inverse,
tous les abus. Oui.
Les médicaments se retournent contre vous.
Ce qui veut dire que le dentifrice suffit.
S'il n'y
a que le dentifrice, c'est parfait.
Oui. Surtout s'il est utilisé plusieurs fois par jour.
Dany, vous faites bien de rappeler 3 fois par jour. En fait, c'est comme manger. Hein. Bon, nous, on a la chance de pouvoir manger 3 fois par jour. Eh bien, on mange 3 fois par jour, on se lave les dents 3 fois par jour. Alors, je ne sais pas si je vais le faire, mais bon.
Vaut mieux tard que jamais.
Vaut mieux tard que jamais. Alors, le chewing-gum, il parle.
Ah, c'est bien le chewing-gum. C'est bien le chewing-gum.
Ça nettoie.
Cher ami,
oui.
Ça a que des avantages, le chewing-gum. C'est inesthétique, mal élevé, ça te pollue nos trottoirs, mais ça fait mastiquer.
Oui.
Ça enlève les impuretés entre les dents, ça apporte quelques éléments si effectivement il est fluoré et que c'est le seul apport. ça fait saliver, donc ça augmente la digestion primaire avec le fameux lysogyme. Ça a tous les avantages et c'est très inesthétique.
Nous sommes d'accord, mais c'est la première fois que j'entends que l'on donne autant de qualité à un chewing-gum.
Il faut quand même tenir compte qu'il y a du sucre au départ, hein. Mais enfin bon, il n'y en a pas
mais
beaucoup.
Mais on doit trouver des chewing-gums sans sucre.
Non, ça c'est bien sûr. Oui, sûrement.
Hein. J'en suis certain. Oui.
Bon, à la chlorophylle, bon, peut-être.
Ça c'était la mode, vous n'étiez pas nés. Hein.
Ça,
la chlorophylle, c'est les années 45-55. Après, on est passé par d'autres stades. Il fallait la Vitascorbol, c'était vitamine C.
Ouais,
après, il y a eu le... Pour s'endormir, comment ça s'appelait le... je me souviens. Il y a des modes comme ça qui sont lancés par des consortiums.
Voilà. Alors, les modes. Est-ce que, à propos des dents, est-ce qu'il y a des modes esthétiques ou...
Alors, on rentre dans un domaine très très large. Hein. Ça va des acteurs qui veulent avoir des dents tellement blanches qu'on voit ça en premier et c'est horrible.
Ça ressemble à un piano.
Moi, si vous me parlez de mode sur l'esthétique des dents, il y a une phrase que j'aime bien sur l'élégance. L'élégance, quelqu'un disait, quelqu'un est élégant quand on serait incapable de dire comment il est habillé quand il s'en va. C'est pas mal parce que c'est discret. Beaucoup de dents, beaucoup de gens vont vous dire, moi les fausses dents, je les vois tout de suite. C'est absurde, parce qu'un crime parfait, il n'y a pas de statistiques, on ne peut pas le déceler. Donc toutes les dents réussies ne se voient pas, donc la personne dit des bêtises, parce qu'elle va faire des statistiques sur des choses ratées.
Ouais.
Alors, l'esthétique, c'est ça, hein. C'est donc un système d'élégance. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir... J'ai toutes mes dents, mais elles ne sont pas merveilleuses, ni en couleur, ni vraiment en forme. Ma femme, oui, remarquable. Mais là, on rentre dans le domaine de l'esthétique. Alors, c'est compliqué. L'orthodontie, c'est certes... Souvent, les gens pensent orthodontie en disant « j'aurai des dents bien alignées ». Mais comme l'a dit ma femme, c'est vrai que c'est un double engrenage, comme une boîte à vitesse. Quand il y a un pignon qui est de travers, la boîte fonctionne mal. S'il manque une dent en bouche, celle d'en face a tendance à la rejoindre, les deux voisines se penchent vers elle, donc on commence à tout démantibuler les deux barrières qui étaient bien rangées, et là la mastication sera moins bonne et les dents vont se carier. Donc ça c'est le côté mécanique. Esthétique, ben là, c'est tellement évident qu'on voit très bien que si c'est réussi, ben, on ne saura pas quelle était la denture de la personne qui vient nous quitter.
Justement, pour tous ces travaux, est-ce que j'imagine... Pour parler un petit peu de techniques, d'outils, pour que vous, dentistes, vous fassiez en sorte que l'on ait une bonne dentition lorsque l'on va vous voir, une fois par an, je le rappelle. Est-ce que les outils, vos techniques ont changé au fil du temps ?
Oui, ça s'est beaucoup amélioré. Déjà, quand
révolutionnaire.
Révolutionnaire. On est passé du tour qui tournait, je sais pas,
600
tours minutes.
À 380 000.
À 380 000. Ce qui veut dire qu'au lieu d'être comme
là,
ça.
Là, on parle de la roulette.
Oui, de la roulette. Voilà. Ça n'existe plus maintenant, la roulette.
Ben oui, oui.
Maintenant, c'est une turbine. Et ça tourne tellement vite que ça ne vibre plus. Ça fait son travail, mais sans vibrer. Donc, on n'est pas secoué.
Oui, j'ai des très mauvais souvenirs.
Et oui.
La turbine, elle est née en 51. Elle est venue des États-Unis par la marque Borden. Mais il y a surtout le fait que 50 grammes de pression, elle s'arrête. Donc, on ne peut pas aller à fond en forçant quoi que ce soit. Elle s'arrête. Donc, c'est un instrument très léger qu'il faut passer... le nombre de fois qu'il faudra, mais effectivement, c'est révolutionnaire, la turbine, il n'y a pas que ça.
Il y a la turbine. Après, il y a aussi une chose extraordinaire, c'est l'anesthésie, qui n'existe pas depuis très longtemps. Et même nous, quand on a commencé notre carrière, on faisait des anesthésies que pour les extractions. Mais les soins, elles se faisaient sans anesthésie, ce qui veut dire que quand quand il y avait une carie profonde, qu'il fallait la nettoyer, ben, ce n'était pas une partie de plaisir, hein, c'est sûr. Alors que maintenant, c'est fini, ça. Dès que, même pour un détartrage, on vous fait une anesthésie.
Mais c'est plus la piqûre aussi, c'est toujours
C'est toujours la piqûre, mais avant de faire la piqûre, on passe un produit qui anesthésie la gencive et on arrive à piquer sans que ça se sente.
Oui, parce que bon, les quelques dernières fois où j'ai eu droit à ça, je ne me souviens pas d'avoir...
T'as eu mal ? Non, mais maintenant on arrive... Non,
les aiguilles sont très fines.
C'est très fine aussi,
les produits sont
meilleurs.
Rapides, peu de doses, etc. Je vais faire un aparté sur les anesthésies.
Faites.
Notre professeur en troisième année nous disait en fin d'année, en fin de cours sur l'anesthésie, vous êtes certainement très fier parce que maintenant vous pouvez faire des anesthésies locales, les régionales, générales, etc. Et il a dit, ça me plaît beaucoup, je le dis souvent, souvenez-vous, chers amis, vous avez beau être fier, dans deux siècles on dira de vous, vous vous rendez compte, ils nous piquaient. Et c'est vrai. Donc les progrès, le prochain progrès, à mon avis, c'est la suppression de l'aiguille. Oui. Ça a été essayé de genre Karcher puissant, ça ne marche pas. Donc pour l'instant, c'est énorme un progrès, mais il y a quand même une aiguille.
Mais qu'on arrive à introduire sans faire trop mal.
Tout à fait. Oui, donc c'est comme tous les métiers, toutes les disciplines.
L'informatique.
Les
radios informatiques.
L'informatique, les radios.
Les capteurs, ça,
c'est... Oui. Et est-ce que le prothésiste, et ça existe toujours ?
Bien sûr.
Oui, il a toujours son...
C'est lui qui fait les prothèses. On est capable de les faire, mais on ne peut pas être
au
moulin. Donc on fait faire le travail de prothèse par un prothésiste.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on pourrait penser qu'on pourrait faire ses prothèses avec une imprimante 3D, par exemple.
Mais il a tout à fait raison. Oui. Vous avez raison, monsieur. Vous avez raison. Il existe des imprimantes 3D qui permettent de faire des couronnes en céramique en trois dimensions. L'appareil étant très cher, les labos qui peuvent se le payer ont une clientèle de chirurgiens-dentistes. Mais il y a des chirurgiens-dentistes qui sont même équipés pour le faire. Avec la démocratisation et les chutes des prix qui existent partout, les postes de télé, les magnétoscopes et autres, ça viendra. Alors effectivement, on est capable de faire des couronnes. Et là, le prothésiste est inquiet, ou alors il faut qu'il s'équipe rapidement.
Oui, absolument. Mais ça paraît, enfin, dommage pour le prothésiste, oui, comme vous dites, mais ça paraît tellement logique que l'appareil est là, on voit tout ce qui se passe, pouf, tout de suite ça part.
Capteur dans la bouche.
Capteur dans la bouche, et ça se fait dans l'instant, quoi.
Voilà, extemporané.
Ah oui, ça c'est extraordinaire. Bon.
On n'a encore rien vu, mais ça avance.
Mais ça avance. Pour reparler, enfin, continuer un sujet que l'on a abordé tout à l'heure, où vous me disiez qu'au fil du temps, la mâchoire
rétrécit
parce qu'on la sollicite moins. Est-ce que ça veut dire que dans des millions d'années, peut-être, on n'aura plus pas beaucoup de dents?
On pourrait même imaginer qu'il n'y ait plus de gastronomie.
Oui,
pensez-vous?
Faut bien, j'allais dire, aujourd'hui, on peut penser que on a besoin de manger pour vivre, déjà.
Oui, c'est vrai.
Mais peut-être qu'on trouvera un autre moyen pour vivre que de manger, je ne sais pas.
Ce serait dommage.
Oui, ça serait dommage. Avec une...
Je ne sais pas si en France, on ne va pas garder une sorte de secte qui permette de continuer de manger comme jadis.
Oui, ça, nous...
En revenant le retour aux sources.
Et de bien manger.
Oui, absolument.
C'est quand même un plaisir extraordinaire.
Oui, c'est un plaisir extraordinaire, mais vous voyez bien que parmi nos jeunes générations, parfois, ils ne sont pas du tout intéressés. Ils vont manger.
Question d'éducation.
Oui, ils vont manger dans des endroits où moi, je ne mets pas les pieds parce que je sais que je ne vais pas avoir beaucoup, beaucoup de plaisir.
Il y a une question d'éducation gustative dès le départ. Même à 1 an, 2 ans, 3 ans, les parents ont déjà un rôle à jouer sur l'éducation de la mastication, du goût, de ce qu'il ne faut pas mélanger, ce qu'il faut manger, etc.
Oui, oui.
Et l'éducation maintenant, beaucoup à dire.
La gastronomie, c'est un art. C'est... Bien sûr qu'il y a les arts, j'aime pas qu'ils... Certains disent des arts majeurs, il n'y a pas d'arts majeurs, il y a des arts bien réalisés, c'est tout. Mais les bandes dessinées, le cinéma, ce sont des 7e, 8e, 9e arts, etc. Je pense que la gastronomie est un art comme les autres, avec les mêmes qualités, avec le même enthousiasme, et puis le même rayonnement. Il y a des pays ou des villes ou des lieux qui font leur réputation que par la gastronomie. Oui. Donc ils ont raison de commencer à prendre un objet qu'ils mettent dans leur bouche en le mastiquant. Pragmatisme.
Avez-vous bien entendu la leçon? Non, mais on voit bien par rapport à la gastronomie, puisque c'est le sujet. Là aussi, les choses... change, évolue, il y a le questionnement. 2020, il y aura une grande rencontre, enfin de grande, oui, de grandes rencontres en France sur l'avenir de la gastronomie. Qu'est-ce que va être la cuisine de demain, la gastronomie de demain, un petit peu en parallèle et pour se poser la question par rapport aux plats tout préparés dont on parlait tout à l'heure, donc avec des conservateurs, puisque ça, par définition, on ne le mange pas tout de suite, donc il faut conserver, à moins que d'ici là, on trouve des moyens de conservation qui n'aient pas les inconvénients que l'on connaît aujourd'hui. Mais en tout état de cause, comme vous venez de le dire, cher Willy, mastiquez beaucoup et vous aurez beaucoup à dire.
Et appréciez ce que vous mangez.
Et apprécions ce que nous mangeons, absolument. Avez-vous quelque chose à rajouter ?
J'ai faim.
Je vais mastiquer quelque chose de bon.
Mastiquons. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça un matin et après
manger.
Manger un pot-au-feu.
Un pot-au-feu. Tiens, il y a longtemps que je n'ai pas fait de pot-au-feu.
Bon, la période commence à être un peu passée,
oui,
du pot-au-feu.
Oui,
mais bon.
C'est plus l'hiver.
Non, mais ce n'est pas une conclusion. Mais moi, je n'ai aucun pessimisme sur l'avenir de la gastronomie. Je n'ai évidemment pas la science infuse pour savoir ce qu'elle sera demain, mais je ne vois pas pourquoi on ne conserverait pas le traditionnel pendant des siècles, après qu'il y ait une adaptation à certains modes de vie, y compris, je vais loin, hein, interplanétaire, etc. D'accord, mais le plaisir, il est intrinsèque, il est propre de l'homme. Donc à partir du moment où on a une jouissance gustative, on va vouloir la conserver. Elle est même instinctive. Les animaux se trompent pas de baies à manger dans la nature. Ils prennent celle qu'il faut, ils prennent pas celle qui les empoisonne. Et l'homme fera gaffe aussi à la même chose. Alors bon, donc je suis absolument pas pessimiste. Vous aurez encore un grand avenir.
Alors bon appétit.
Mes amis de la fête de la gastronomie, j'espère que vous avez apprécié ce que nos amis Dany et Willy nous ont dit. Merci beaucoup Dany, merci beaucoup Willy.
De rien, c'est avec plaisir.
Brosse de l'autre côté. Continue comme ça, c'est au poil. Maintenant, on brosse dedans.
Remets ton poignet comme si tu faisais de la moto. Frotte chaque dent pour que ça brille. C'est utile et c'est rigolo. Bravo, fais comme ça tout le tour de la gencive vers la dent. Comme ma petite sœur dit toujours,
va aller du rose vers le blanc.
Nom d'un petit castor.
Woohoo!
Brosse, brosse encore. Nom d'un petit castor.